Bonjour à tous. Il existe une règle dans la communication humaine. Elle s'appelle la formule 55-38-7. Certains d'entre vous en ont probablement entendu parler, vous en avez probablement tous entendu parler en principe, mais ce qu'elle dit, c'est que 55% de la communication que nous avons avec les gens est basée sur notre langage corporel, 38% sur le ton de notre voix ou la façon dont nous disons quelque chose, et 7% sur nos mots. 93% de la communication n'a donc rien à voir avec les mots que nous prononçons. Une grande partie de la communication non verbale, en dehors de nos mots, est constituée par nos expressions faciales. Le regard ou les regards que nous portons sur notre visage en disent long. Elles peuvent indiquer aux gens ce que nous ressentons, notre état émotionnel. On peut savoir si quelqu'un est curieux, par exemple, par l'expression de son visage. Il aura un regard interrogateur. Vous pouvez savoir si quelqu'un est heureux, s'il sourit. Si quelqu'un est triste, son visage n'est pas très joyeux. Il pleure. Vous pouvez dire si quelqu'un est en colère. Toutes ces choses sont possibles grâce aux expressions du visage. On peut même savoir si quelqu'un est impatient. Vous connaissez le vieux roulement des yeux, comme « oh ». Ce qui est intéressant avec les expressions faciales, c'est qu'elles sont universelles. Elles traversent les cultures. Un visage triste en Inde est le même qu'un visage triste au Japon ou en Australie, quelle que soit la culture. Le Covid a fait des ravages dans la lecture des visages et des expressions faciales. Ils en ont vraiment pris un coup. Je me souviens, et je suis sûr que c'est aussi votre cas, que je portais un masque et qu'il était impossible de savoir ce que pensaient les gens. On ne pouvait pas dire s'ils étaient contrariés, s'ils étaient heureux. Peut-être étaient-ils impatients. On ne peut vraiment pas savoir. Des études ont montré que les gens perdaient beaucoup de contact ou d'intimité avec les visages lorsqu'ils étaient recouverts d'un masque. Un médecin a parlé d'eux, ce qu'il a dit, c'est que lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du visage, notre traitement universel est perturbé. Et en anglais, lorsque vous ne pouvez pas voir le visage de quelqu'un, la façon dont nous traitons et communiquons avec lui est totalement affectée. Ils ont constaté que les gens se mettaient plus rapidement en colère, ou du moins qu'ils étaient perçus comme tels, lorsqu'on ne pouvait pas voir leur visage. Et je pense que, plus que tout, le fait que tout le monde ait le visage couvert pendant ces 2 ou 3 années nous a vraiment montré l'importance de cette pratique. Je suis de tout cœur avec les millions et les millions de femmes qui, dans certaines cultures, principalement musulmanes, doivent porter le niqab ou la burqa. Et ce n'est pas la même chose que le couvre-chef standard. C'est celui où l'on ne peut voir que la bande des yeux. Je suis de tout cœur avec ces femmes. Comment communiquent-elles? Comment peut-on savoir ce qu'elles ressentent? Ce n'est certainement pas quelque chose que Dieu a voulu. Pour moi, et je suis sûr que vous êtes dans le même cas, pour apprendre à vous connaître, je veux voir votre visage. Je veux voir tes yeux. Je veux voir votre nez. Je veux voir vos sourires. Je regarde tous vos visages, vous regardez le mien. C'est plus personnel quand vous pouvez voir mon visage. C'est plus personnel quand je peux voir tous vos visages. Nous sommes capables de nous connecter les uns aux autres. Nous pouvons nous comprendre. Vous pouvez me comprendre simplement parce que vous pouvez voir mon visage. Et, bien sûr, quand nous voyons le visage de l'autre, nous sommes ensemble. Je sais qu'il y a la technologie, nous pouvons voir des choses sur vidéo. Mais quand nous sommes ensemble, nous pouvons voir les visages des autres. C'est un élément très important. Frères et sœurs, bien sûr, chacun d'entre nous a un visage. Nous avons tous un visage. C'est une bonne chose. Dieu aussi a un visage. Et tout comme nous avons intérêt à voir le visage des autres, Dieu veut aussi voir notre visage. Nous voulons voir son visage. La communication face à face avec Dieu a des implications énormes, surtout en un jour comme aujourd'hui. En ce jour de Pentecôte, voyons ce que la communication face à face avec Dieu signifie pour nous tous. Nous allons donc voir ce que la communication face à face avec Dieu signifie pour nous tous. Nous passons au chapitre 19 de l'Exode. Exode, chapitre 19. Nous allons lire l'histoire de Moïse et de Dieu sur le mont Sinaï, verset que nous retrouverons bien sûr à la Pentecôte. Exode, chapitre 19. Nous allons lire un peu. Nous commencerons par le début du chapitre. Exode 19, le troisième mois, lorsque les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, le même jour arriva au désert de Sinaï. Ils avaient donc voyagé et s'étaient arrêtés, ou bien ils étaient partis de Rephidim et étaient arrivés dans le désert du Sinaï. Ils avaient campé dans le désert et leur Israël campait devant la montagne. Ils ont donc établi leur camp sur le mont Sinaï. Moïse monta vers Dieu et le Seigneur l'appela de la montagne en disant, « Tu diras cela à la maison de Jacob et tu le diras aux enfants d'Israël. » Nous voyons donc que Dieu et Moïse se rencontrent. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur les ailes d'un aigle, et comment je vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier, au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles que l'Éternel lui avait prescrites. Le peuple a donc vu le visage de Moïse pendant qu'il transmettait tout ce que Dieu venait de lui dire. Tout comme vous voyez mon visage lorsque je vous transmets ces choses, le peuple a vu le visage de Moïse. Verset 8. Tout le peuple répondit ensemble, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Nous voyons donc que Dieu voit le visage de Moïse et que Moïse lui transmet tout ce que le peuple vient de lui dire. Moïse joue donc le rôle d'intermédiaire à bien des égards. Verset 9. Le Seigneur dit à Moïse, voici, je viens à toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il croie à jamais. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Nous voyons donc que Dieu ne voulait pas seulement que le peuple croie Moïse sur parole. Il y a eu un peu de va-et-vient, mais Dieu dit ici qu'il voulait que le peuple entende quand il lui parlait. Verset 10. Le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il lave ses vêtements et se tienne prêt pour le troisième jour. Car le troisième jour, le Seigneur descendra, aux yeux de tout le peuple, sur le mont Sinaï. Il ne fait aucun doute que Dieu ne parle pas depuis le ciel. Dieu est là. Verset 12. Vous fixerez des limites au peuple des alentours, en disant, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Pas une main ne la touchera, en parlant de la montagne, mais on la lapidera ou on la transpercera, bête ou homme, et elle ne vivra pas. Quand la trompette sonnera longtemps, ils viendront sur la montagne. Dieu voulait manifestement communiquer avec le peuple, mais il voulait qu'il y ait une certaine séparation. Ainsi, sous peine de mort, le peuple ne devait s'approcher que jusqu'à un certain point. Descendez à 16. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et le son de la trompette fut très fort, de sorte que tout le peuple qui se trouvait dans le camp trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Phrase importante. Ils s'arrêtèrent à l'extrémité de la montagne. Le mont Sinaï était tout entier dans la fumée, car l'Éternel était descendu sur lui dans le feu. Une fois de plus, Dieu était là. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne fut ébranlée. Le son de la trompette se prolongea et devint de plus en plus fort. Moïse parla, et Dieu lui répondit par agrafe une voix. Et le Seigneur descendit sur la montagne de Sinaï. L'accent est mis sur la présence de Dieu au sommet de la montagne. Le Seigneur appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse y monta. Le Seigneur dit à Moïse, « Descends, commande au peuple, de peur qu'il ne s'avance vers le Seigneur pour le contempler, et que beaucoup d'entre eux ne périssent. Au cas où il serait curieux de savoir ce qui se passe là-haut, Moïse s'adresse à qui ? Au cas où il serait curieux de savoir ce qui se passe là-haut. Avec qui Moïse parle-t-il ? Au cas où il serait curieux, que les prêtres qui s'approchent du Seigneur se sanctifient aussi, de peur que le Seigneur n'éclate sur eux. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne peut pas venir sur le mont Sinaï, car tu nous l'as dit, tu nous l'as ordonné, fixe des limites autour du mont et sanctifie-le. Le Seigneur lui dit, descends et tu monteras, toi et Aaron avec toi. Mais que les prêtres et le peuple ne traversent pas pour monter vers le Seigneur, de peur qu'il n'éclate sur eux. Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Nous voyons donc ici que c'est principalement Moïse qui a cette interaction directe avec Dieu. Passons à l'Exode, chapitre 34. Exode, chapitre 34. L'Exode est un livre étonnant. Nous l'étudions en cette période de l'année, mais mes frères, je vous encourage à l'étudier tout au long de l'année. Exode, chapitre 34. Nous commencerons par le début du chapitre. En fait, commençons au verset 2. Exode 34. Nous entrons ici dans le vif du sujet. Et sois prêt dès le matin. C'est Dieu qui parle à Moïse. Monte dès le matin sur le mont Sinaï, et présente-toi à moi sur le sommet du mont. Verset 5. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Descendons jusqu'au verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est d'après ces paroles que j'ai fait alliance avec toi et avec Israël. Moïse resta avec le Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Moïse est resté avec Dieu pendant plus d'un mois, 40 jours et 40 nuits. Imaginez que vous soyez avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Apparemment, ils étaient tellement occupés que Moïse n'a pas eu l'occasion de manger ou de boire. Peut-être n'avait-il pas d'appétit parce qu'il était avec Dieu. Quel impact cela a-t-il eu sur Moïse? Quel impact cela a-t-il eu sur lui? Verset 29. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, les deux tables du témoignage à la main, Moïse ne savait pas que la peau de son visage brillait pendant qu'il parlait avec lui. Le visage de Moïse brillait. Comment le visage d'une personne peut-il briller? Cela défie toutes les lois de la physique ou est-ce comme s'il y avait des lumens ou des lumières sur son visage? Comment le visage d'une personne peut-il briller, littéralement briller? Ne pensons pas qu'il s'agit d'une métaphore. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, et voici que la peau de son visage resplendit, et ils eurent peur de s'approcher de lui. Son visage brillait, mes frères. Moi aussi, je craindrais de m'approcher de lui. Qu'est-il arrivé au visage de Moïse? Verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, Il mit un voile sur son visage. Il a dû se couvrir le visage. Il était probablement trop distrait. Il n'entendait rien de ce qu'il disait. Il fixait son visage. Il a dû mettre un voile sur son visage. Lorsque Moïse se présenta devant le Seigneur pour lui parler, il ôta le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il fut sorti, il parla aux enfants d'Israël selon l'ordre qui lui avait été donné. Les enfants d'Israël virent le visage de Moïse, et la peau de son visage resplendit. Moïse remit le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il allât lui parler. Nous voyons donc cet impact. Nous voyons maintenant l'impact de Moïse dans son visage spécifiquement et dans la présence de Dieu. Revenons à Exode 20. Il est important de comprendre que nous avons vu l'impact sur Moïse. Qu'en est-il du peuple? Quel est l'impact de cette opportunité sur le peuple? Exode 20, verset 18. Tout le peuple vit les tonnerres et les éclairs, le son de la trompette et la fumée de la montagne. Quand le peuple vit cela, il s'éloigna et se tint à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » C'était trop. C'était trop pour eux. Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, car Dieu est venu pour vous éprouver et pour que sa crainte soit devant vos yeux, afin que vous ne péchiez pas. » Tout cela devait servir de motivation pour que les gens ne pêchent pas. Car si je pêche, je dois m'en occuper, je dois m'occuper de lui. C'était un moyen de les mettre à l'épreuve. Le peuple se tenait à distance, et Moïse s'approcha des ténèbres épaisses où Dieu était. L'Éternel dit à Moïse, « Tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé. » Il s'agit ici d'une parole venue du ciel. Nous voyons donc de manière fascinante que le Dieu de l'univers était prêt à se retrouver face à face avec un être humain. Dans ce cas, il s'agissait de Moïse. Exode 33. Nous commencerons par le début de l'Exode 33. Nous allons voir un changement ici. Exode 33, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Pars-moi d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, vers le pays que je t'ai juré, ainsi qu'à Abraham, à Isaac et à Jacob, de donner à ta postérité. » Nous voyons donc que le peuple se déplace. Ils ont quitté le mont Sinaï. Vous savez, l'endroit où Moïse rencontrait Dieu. Ils ont quitté le mont Sinaï. Quand est-il maintenant? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifiait-il que Moïse ne pouvait plus rencontrer Dieu? Septième verset. Moïse prit le tabernacle, le dressa hors du camp, loin du camp, et l'appela tabernacle de la congrégation. Tous ceux qui cherchaient l'Éternel allaient vers le tabernacle de la communauté, qui était hors du camp. Verset 9. Comme Moïse entrait dans le tabernacle, la colonne de nuages descendit et se tint à l'entrée du tabernacle, et l'Éternel parla à Moïse. Moïse pouvait encore rencontrer Dieu bien qu'il ne soit plus au mont Sinaï. Frères et sœurs, c'est très important. Le fait que Moïse ait pu rencontrer Dieu dans un autre lieu que le mont Sinaï est très important. Verset 11. L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est la première fois que nous lisons explicitement que Dieu a parlé à Moïse face à face. Au fil du récit, Moïse avait besoin d'être rassuré. Dieu lui avait dit qu'il délivrerait les enfants d'Israël. Moïse avait besoin d'être rassuré. D'accord, aidez-moi à vous croire. Verset 14. Dieu dit, « Ma présence marchera avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si ta présence ne va pas avec moi, ne nous emmène pas ailleurs. Si tu ne veux pas être avec nous, Dieu, Nous ne voulons pas partir. Ne nous envoie pas. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu as dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Je te prie de me montrer ta gloire. » Moïse dit donc, « Je veux voir ta gloire. Je te crois, Dieu, mais je veux voir ta gloire. » Et lui, Dieu, dit, « Je ferai passer ma bonté devant toi, je proclamerai devant toi le nom du Seigneur, et je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. » Et il a dit, « Vous ne pouvez pas voir mon visage, car nul ne peut me voir et vivre. » Dieu a dit, « Vous ne pouvez pas voir mon visage. » Je pensais qu'il parlait face à face. Ne venons-nous pas de lire cela? Regardez le verset 11. L'Éternel parle à Moïse face à face. Maintenant, Dieu dit, « Tu ne peux pas voir mon visage. » Continuons à lire. L'Éternel dit, « Voici, il y a près de moi un lieu où tu te tiendras sur un rocher, et, pendant que ma gloire passera, je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. » Nous avons tous entendu et lu ce récit. J'ôterai ma main et vous verrez mon dos, mais vous ne verrez pas mon visage. Dieu dit, vous ne pouvez pas voir mon visage, alors que nous venons de lire que Dieu et Moïse se sont rencontrés face à face. Qu'est-ce qui nous échappe? Il est clair que quelque chose nous échappe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon frère, une fois que l'on s'y intéresse, c'est tout simplement fascinant à comprendre. Si nous revenons au verset 11, il est question de Dieu qui voit ou rencontre Moïse face à face, comme le feraient des amis. Nous lisons clairement cela. Eh bien, la réponse à l'énigme, au mystère de la façon dont ils peuvent être face à face, alors que Dieu dit que vous ne pouvez pas voir mon visage, c'est la signification du mot face à face ou de l'expression. Le mot visage, c'est pani. Cela vous semble familier? Pani. Nous l'avons déjà entendu dans la série. Pani, face à. Pani signifie bien visage, mais il signifie aussi présence. Lorsque nous lisons que Dieu et Moïse étaient face à face, pani à pani, ils étaient présents l'un à l'autre. Ils étaient en présence l'un de l'autre. C'est ainsi qu'ils ont pu se voir face à face. Pourtant, Dieu dit, tu ne peux pas voir mon visage. Si vous reprenez le récit, je l'ai caché et souligné ici et là, mais si vous reprenez le récit, il vous sautera aux yeux maintenant, parce que Dieu parle d'être en présence de ceci et de cela et de la présence, ma présence, ma présence, ma présence. Sa présence sur la montagne avec Moïse à ses côtés, sa présence dans le tabernacle avec Moïse à ses côtés. Les deux êtres, Dieu et Moïse, se sont rencontrés face à face. Allez à Nombre 14. Le chapitre 14 des Nombres. Dieu ne cesse d'insister sur sa présence. Nombre 14. Ils le diront aux habitants de ce pays, car ils ont appris que le Seigneur est au milieu d'eux, que toi, le Seigneur, tu es au milieu de ce peuple. Tu es au milieu du peuple que le Seigneur voit face à face, que la nuée se tient au-dessus d'eux, et que tu vas devant eux de jour dans la colonne de nuée, et de nuit dans une colonne de feu. La présence de Dieu était dans cette colonne, et il était là au milieu du peuple. Nous venons de voir qu'il se rencontrait et était face à face avec le peuple. Dieu veut être présent avec son peuple. Il a toujours voulu être présent avec son peuple. Quel père ne voudrait pas être présent avec ses enfants? Il y a un mouvement en ce moment. Vous en avez probablement entendu parler. Les gens glorifient les foyers monoparentaux. Vous en avez probablement entendu parler, en particulier les mères. Ils glorifient les mères célibataires ou les foyers dirigés par une mère célibataire. Frères et sœurs, c'est faux. Je parle en tant que personne ayant grandi avec une mère célibataire. Je ne jette pas la pierre. C'était l'une des choses les plus difficiles auxquelles un enfant pouvait être confronté. Quel enfant ne voudrait pas que son père soit là, que son père soit là? On peut inverser les choses. Il y a des foyers monoparentaux avec des pères, et ce n'est pas un reproche. Je ne blâme pas mes parents. Ce sont des choses qui arrivent, mais sans glorifier, c'est méchant. C'est une erreur. Les choses arrivent. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais le glorifier et faire comme si cela n'avait pas d'importance, c'est mal. C'est mal. Nous avons besoin d'un père physique dans notre vie. Nous avons certainement besoin d'un père spirituel dans notre vie. Dieu sait qu'il veut être présent avec nous. Ce n'est pas parce que Dieu est invisible qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas forcément qu'il n'est pas présent. Dieu a toujours voulu être avec son peuple. Allez au chapitre 3 de la Genèse. Genèse, chapitre 3. Je viens de lire quelques versets. Je veux juste montrer que Dieu a toujours voulu être présent. Genèse, chapitre 3. Nous reprendrons au verset 8. Genèse, chapitre 3, verset 8. Adam et Ève entendirent la voix du Seigneur Dieu qui marchait dans le jardin à la fraîcheur du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Dieu était présent. Dieu était là. Le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu ? Pourquoi n'es-tu pas là ? Où es-tu ? Je te cherche. » Adam dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que j'étais nu, et je me suis caché. » Dieu a toujours voulu être présent avec son peuple. Il veut être présent avec son peuple maintenant. Il veut être présent avec son peuple dans le futur. Passez au chapitre 20 d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20. Verset 33. Ézéchiel chapitre 20, verset 33. Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, c'est ta main forte, à bras étendus, à fureur épandue, que je dominerai sur vous. Il s'adresse à Israël. Je vous ferai sortir du peuple et je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés. Il est question ici de captivité. La captivité d'Israël. À main forte, à bras étendus, à fureur épandue, je vous ramènerai dans le désert. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous parlerai face à face, comme j'ai parlé à vos pères. Comme j'ai plaidé avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi je plaiderai avec vous, dit le Seigneur Dieu. Ce mot « plaider » ne vous donne-t-il pas une image différente? Tout comme j'ai plaidé avec mon peuple au mont Sinaï. J'ai plaidé avec eux. Je leur ai donné ma loi à la Pentecôte. Je les ai suppliés de m'obéir. Vous venez de sortir de captivité. Je vais vous supplier à nouveau. L'image est différente. Dieu sera présent. C'est ce que nous lisons. Nous lisons ici que Dieu sera présent avec son peuple dans le désert, face à face. J'ai dit que Dieu a toujours voulu être présent avec son peuple. Souvent, mes frères, pour apprécier pleinement quelque chose, il faut ne pas l'avoir. Une façon d'apprécier pleinement la présence de Dieu est de ne pas être présent avec Dieu, d'être séparé de Dieu. Cela nous aide à mieux apprécier le fait d'être en présence de Dieu. Passez à Ésaïe 59. Ésaïe 59. C'est un verset à mémoriser, je l'ai marqué dans ma Bible. Je vais lire deux versets, en fait. Ésaïe 59, verset 1. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas trop lourde pour entendre. Voici le verset à mémoriser, mais tes iniquités ont creusé un fossé entre toi et ton Dieu, et tes péchés t'ont caché sa face, pour qu'il ne t'entende pas. La face, c'est, devinez quoi? Pani. Le péché nous sépare donc de la présence de Dieu. Dieu ne veut pas être en présence du péché, c'est pourquoi il s'en sépare. Être séparé de Dieu, mes frères, est une chose terrible. Cela ne semble pas très agréable, mais c'est une chose terrible. Allons au chapitre 3 de Michée. Lisons un exemple. Et pendant que je le lisse, saisissez l'image. Saisissez l'image que Dieu est en train de peindre. Michée, chapitre 3. C'est une chose terrible, que d'être séparé de la présence de Dieu. Michée, chapitre 3, verset 1. Et je dis, écoutez, je vous prie, chef de Jacob, et vous, prince de la maison d'Israël. N'est-ce pas à vous de connaître le jugement? Je suis ici pour vous juger. C'est ce que Dieu dit. Je suis ici pour vous juger, vous qui haïssez le bien et aimez le mal. Vous arrachez la peau des hommes et la chair de leurs os, vous mangez la chair de mon peuple, vous écorchez leur peau, vous brisez leurs os et vous les mettez en pièces. Vous mangez la chair de mon peuple, vous écorchez sa peau, vous brisez ses os et vous les coupez en morceaux, pour le pot et pour la chair dans le chaudron. Ce sont des individus méchants. Le peuple qu'il maltraite criera vers le Seigneur, et il ne l'entendra pas. Il leur cachera même sa face en ce temps-là, comme ils se sont conduits dans leurs mauvaises actions. La punition. Criez à Dieu. Nous lisons ce qu'ils vivaient, mais ils criaient vers Dieu, et ils ne répondaient pas. Deutéronome chapitre 31. Deutéronome 31. Frères et sœurs, parfois nous ne regrettons pas ce que nous avons jusqu'à ce qu'il disparaisse. Vous avez déjà entendu cela. Deutéronome 31, verset 17. Deutéronome 31, 17. Alors ma colère, dit Dieu, s'enflammera contre eux en ce jour-là, et je les abandonnerai. Je leur cacherai ma face, et ils seront dévorés, et il leur arrivera beaucoup de maux et d'afflictions. Je leur cacherai ma face, et ils seront dévorés, et il leur arrivera beaucoup de maux et de détresse, au point qu'ils diront en ce jour-là, ces maux ne nous arrivent-ils pas parce que notre Dieu n'est pas au milieu de nous? Et je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tous les maux qu'ils auront causés, en se tournant vers d'autres dieux. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas laisser les autres dieux dans nos vies, les choses que nous mettons à la place qui ne devraient être occupées que par Dieu. Nous ne pouvons pas laisser ces autres dieux nous distraire de la présence du vrai Dieu. Parce que lorsque nous sommes en difficulté et que nous appelons Dieu, ces dieux, ces petits dieux, ne seront pas là pour nous aider. Ils ne seront pas là pour nous délivrer. Les choses de ce monde qui sont brillantes et étincelantes, et les choses que nous voulons, et que nous pensons vouloir plutôt que d'être en présence du Dieu vrai et vivant, elles ne pourront pas nous aider quand nous serons dans le pétrin. En tant qu'êtres humains, nous avons désespérément besoin d'accéder à Dieu. Nous avons désespérément besoin d'accéder au Dieu de l'univers. Et frères, nous pouvons avoir cet accès. Nous avons cet accès. Nous l'avons. Il passe par Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Jean 14. Jean 14, chapitre 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Notre accès à Dieu se fait par Jésus-Christ. Nous venons de lire qu'il n'y a pas d'exception. Aucun homme. Christ se décrit comme le chemin, la vérité et la vie. Trois choses auxquelles nous devons accéder et par lesquelles nous devons passer pour atteindre Dieu le Père. Et le fait est que nous avons cet accès par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Christ est la porte que nous franchissons pour accéder à Dieu. Cela me rappelle Moïse. Vous vous souvenez que Moïse était l'intermédiaire? Il allait et venait. Eh bien, Christ remplace Moïse et fait encore mieux. Il est la porte par laquelle nous pouvons tous passer et avoir personnellement accès à la présence de Dieu. Dieu nous a donné accès à sa présence par son Esprit. Pensez-y en un jour comme aujourd'hui. C'est la Pentecôte. Dieu a répandu son Esprit. Allez à Ézéchiel 39. Ézéchiel 39. Frères et sœurs, ce sont des versets puissants que nous lisons. Ézéchiel 39, verset 29. Ézéchiel 39, 29. C'est Dieu qui parle. Je ne leur cacherai plus ma face. Pourquoi? Car j'ai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu. Quelle est l'importance de la Pentecôte? Nous en avons entendu parler toute la journée. Quelle est l'importance de la Pentecôte? Dieu a répandu son esprit sur la chair, sur chacun d'entre nous. Certains d'entre nous cherchent à avoir l'esprit de Dieu en eux, et pas seulement à travailler avec eux. Dans les deux cas, l'esprit de Dieu est impliqué. Dieu a répandu son Saint-Esprit sur l'Église il y a 2000 ans, et Dieu continue à répandre son esprit sur la chair aujourd'hui. Cela nous donne l'occasion d'être en sa présence. D'être face à face avec lui. Dieu veut désespérément, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu veut désespérément être en présence de nous. J'ai dit désespérément. C'est fort. Il a donné son Fils. Il a sacrifié son Fils. Ce sont les actions de quelqu'un qui veut désespérément être en contact avec les gens. Mais je le répète, voulons-nous, ou je demande, voulons-nous désespérément être en contact avec Dieu? Voulons-nous être en contact avec Dieu autant qu'il veut être en contact avec nous? C'est une autre façon de le dire. Ou bien est-ce que ce n'est pas grave? Parfois, ce que vous avez ne vous manque pas tant qu'il n'est pas parti. Pensez à l'importance d'être en présence du Dieu Tout-Puissant. Les enfants d'Israël étaient émerveillés, Moïse, tu lui parles. Nous ne pouvons pas le faire. C'est plus difficile pour nous de comprendre parce que nous ne voyons pas le tonnerre, les éclairs et les tremblements comme eux. C'est plus difficile pour nous de comprendre. Mais être face à face avec Dieu est de la plus haute importance. Nous sommes en présence de Dieu, c'est plus personnel. Nous le reconnaissons, il nous reconnaît. Rappelez-vous depuis le début, tous les avantages et les choses qui viennent avec le face à face. Nous nous comprenons mieux les uns les autres, les êtres humains et Dieu. Et, bien sûr, lorsque nous sommes face à face avec Dieu, nous sommes ensemble. La présence. Pour être face à face avec Dieu, nous devons adopter la même approche que David dans le psaume 27, allons-y. C'est l'attitude que nous devons avoir. Psaume 27, verset 7. Psaume 27, verset 7. Écoute, Éternel, quand je crie de ma voix. Aie pitié de moi et réponds-moi. Quand tu as dit, cherche ma face, mon cœur t'a dit, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ainsi, lorsque Dieu a dit, cherche ma face, David a dit, d'accord, je chercherai ta face. Je chercherai ton visage, ne cache pas ta face loin de moi. Ne repousse pas ton serviteur avec colère, tu as été mon soutien. Ne me quitte pas et ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonneront, le Seigneur me recueillera. Est-ce si rare? Qu'un enfant soit abandonné par son père et sa mère, cela n'arrive pas. Cela arrive de temps en temps, mais c'est plutôt rare. David dit, même quand mon père et ma mère me mettent de côté, tu es là. C'est très fort. Jeunes gens, si vos parents abandonnent la foi, vous avez encore une décision à prendre. C'est ce que je dirais à mes enfants. Si le père et la mère décident, vous savez quoi, je veux faire autre chose. Vous avez la possibilité d'avoir votre propre relation, votre propre chance d'être présent avec Dieu. Comment pouvons-nous être face à face avec Dieu? Comment pouvons-nous le faire? Comment pouvons-nous être en présence de Dieu? L'un des moyens est la prière. Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Frères et sœurs, nous devrions désespérément vouloir être face à face avec Dieu. Si je puis m'exprimer ainsi, cela devrait nous consumer. Hébreux, chapitre 12. Nous reprendrons au verset 18. Car vous n'allez pas à la montagne que l'on peut toucher et qui brûle par le feu, ni à l'obscurité, aux ténèbres et à la tempête. Nous venons de lire cela. Ils entendirent le son de la trompette et la voix des paroles, et ils firent en sorte que la parole ne leur soit plus adressée. Car ils ne pouvaient supporter ce qui était ordonné. Si une bête touchait la montagne, elle serait lapidée et transpercée d'un trait. Le spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis saisi d'une grande crainte et d'un grand tremblement. » Il s'agit donc d'une juxtaposition, d'une comparaison. Mais vous êtes arrivés sur la montagne de Sion, dans la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, auprès d'une troupe innombrable d'anges, de l'Assemblée générale et de l'Église des premiers-nés, qui sont inscrits dans les cieux, auprès de Dieu, le juge de tous, et auprès des esprits des justes rendus parfaits. Frères et sœurs, lorsque nous allons prier, nous sommes en voyage. Considérez-vous comme en voyage. Il est dit ici, nous sommes arrivés à la montagne de Sion, dans la cité du Dieu vivant. Imaginez que vous vous approchiez d'une ville, d'une grande ville, d'une ville qui serait occupée par Dieu. À quoi cela ressemblerait-il? Des anges et des esprits de justes rendus parfaits, une scène magnifique, entrant dans la salle du trône de Dieu, en sa présence. Nous rencontrons Dieu lorsque nous prions. Appréciez cela. La prière est l'occasion de parler à Dieu. Vous l'avez déjà entendu. C'est personnel. Tournez-vous vers Matthieu 6. La réponse à la question de savoir comment être face à face avec Dieu. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet. Et quand tu auras fermé la porte, prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. Lorsque nous nous adressons à Dieu, c'est personnel. Nous sommes dans notre cabinet de prière. Nous y entrons et nous fermons la porte derrière nous. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un face-à-face privé avec notre Dieu. C'est ainsi qu'on le décrit. Christ n'était pas différent. Allons à Matthieu 14. Restez ici dans Matthieu, Matthieu 14, verset 22. Matthieu 14, 22. Aussitôt Jésus engagea ses disciples à monter dans une barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule « Allez-y tous, allez-y. Passez devant moi. » Les foules, « Allez, allez. » Il les renvoya. Après avoir renvoyé la foule, verset 23, il monta sur une montagne à l'écart pour prier. Et le soir venu, il était là seul. Christ voulait être en tête à tête avec Dieu. Il voulait son propre temps en tête-à-tête avec Dieu. Frères et sœurs, nous avons la même possibilité d'avoir ce tête-à-tête avec le Dieu Tout-Puissant. Christ en avait besoin. Combien plus avons-nous besoin de ce temps en tête-à-tête? Psaume 91. Psaume 91. Je n'avais jamais pleinement apprécié ces versets avant de préparer ce message. Psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Être à l'ombre de Dieu, c'est être là. C'est un lieu secret. Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confie. Il me délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Frères et sœurs, la prière est l'occasion de parler à Dieu. Nous pouvons lui faire connaître nos demandes. Des choses que nous ne dirions jamais à quelqu'un d'autre, nous pouvons les dire à Dieu. Nous sommes dans notre cabinet de prière. La porte est fermée derrière nous. Nous espérons que personne n'écoute aux portes. Nous pouvons parler de notre vie, des choses que nous vivons, des défis auxquels nous sommes confrontés, de l'attitude que nous avons adoptée plus tôt dans la journée, de la personne avec laquelle nous avons du mal à nous entendre, mais que nous ne voulons pas admettre. Nous avons la possibilité de le faire lorsque nous sommes face à Dieu. Nous pouvons déverser notre cœur. Nous pouvons dire des choses que nous ne dirions jamais à quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il était important que Moïse puisse parler à Dieu après avoir quitté le Sinaï. Rappelez-vous, j'ai dit que lorsqu'il était dans le tabernacle, ils sont allés dans un autre endroit et que Moïse a pu parler à Dieu. Ils sont allés dans un autre endroit et Moïse avait toujours accès à Dieu. Allez au psaume 139. Psaume 39. C'est plus important qu'on ne le pense. Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je ta présence? Si je monte au ciel, tu y es. Si je fais mon lit dans le séjour des morts, tu es là. Dieu et Moïse se sont rencontrés sur le mont Sinaï. Puis ils se sont rencontrés dans le tabernacle. Frères et sœurs, nous pouvons rencontrer Dieu où nous voulons. Nous pouvons le rencontrer dans la chambre à côté de notre lit. Nous pouvons le rencontrer dans la cuisine lorsque nous prions. Nous pouvons le rencontrer dans nos voitures quand nous prions. Nous pouvons le rencontrer au travail quand nous sommes sur le point de perdre la tête quand nous prions. Nous pouvons rencontrer Dieu où nous voulons. Nous ne sommes pas limités à la montagne. Nous ne sommes pas limités au tabernacle. Nous pouvons le rencontrer où nous voulons. Psaume 5. Nous devons nous assurer, mes frères, nous devons nous assurer que nous profitons de cette incroyable opportunité. Je suis sûr que vous avez tous apprécié l'importance de la prière, mais écoutez-moi, appréciez-la encore plus maintenant avec cette idée d'être dans la présence de Dieu. Psaume 5. Nous entendons parler de la prière tout le temps, et c'est normal, c'est un outil de croissance chrétienne. Parfois, on entend parler de quelque chose si souvent qu'on en oublie l'importance et la signification. Ce n'est certainement pas ce que nous voulons faire. Psaume 5, verset 2. Écoute la voix de mon cri, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que je m'adresse. Nous parlons de la prière. Ma voix, tu l'entendras au matin, ô Dieu. Le matin, j'adresserai ma prière à toi et je lèverai les yeux vers toi. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté, et le mal n'habitera pas chez toi. Frères et sœurs, nous ne voulons pas manquer la prière. Nous ne voulons pas la manquer. Dieu est là. Dieu est présent. Nous ne voulons pas le laisser debout. Nous ne voulons pas le laisser debout. Il est là. Il attend. Sa présence est là, attendant que nous venions. Dieu veut nous rencontrer face à face. Si vous avez du mal à prier, nous en avons tous. Il est parfois difficile de prier. C'est en partie la raison pour laquelle nous manquons parfois notre coup. Si vous trouvez cela difficile, soyez créatif. Il est facile de prier quand on vit quelque chose, mais nous ne vivons pas toujours quelque chose de difficile. Soyez créatif. Prenez le modèle de prière. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle un modèle. Prenez les éléments de cette prière et parlez à partir d'elle. Elle se trouve dans Matthieu 6, je pense de 9 à 13. S'il le faut, ouvrez la Bible et lisez le verset. Passez à un psaume. Nous sommes entrés et sortis des psaumes. Beaucoup d'entre eux sont des prières. Ils sont écrits pour une raison. La plupart des prières restent dans le placard, la porte fermée. Or, ces prières ont été exposées, à livre ouvert. Pourquoi? Pour que nous puissions en bénéficier. Pour que nous puissions prendre ces mêmes prières, un nombre incalculable de fois, vous êtes les mêmes. Je lis ce psaume et je me dis que c'est exactement ce que je vis. Oh, c'est si bien exprimé. C'est ce que je ressens. C'est pour cela qu'ils sont là, pour nous inspirer, pour nous donner des idées. Prenez le bulletin d'annonce. Il y a des requêtes de prière. Lisez-les à Dieu. Soyez créatif. Soyez créatif. La prière est un très, très bon moyen et un moyen nécessaire pour être en présence de Dieu. L'étude de la Bible en est une autre. L'étude biblique dirigée par l'Esprit. Passons au deuxième chapitre de Timothée. Deuxième Timothée, chapitre 3. Verset 3. Oh, pardon. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 16. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous y reviendrons, et utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour instruire et pour rendre juste, afin que l'homme de Dieu soit parfait et bien préparé pour toutes les bonnes œuvres. Cette phrase, inspiration de Dieu, signifie qu'il s'agit d'une inspiration divine. Je le répète, divinement insufflée. Lorsque nous parlons, nous respirons. Je respire mes mots. Cela signifie que toutes les Écritures ont été divinement inspirées ou prononcées par Dieu depuis sa bouche, qui est attachée à son visage, donc depuis le visage de Dieu. Deuxième Pierre 1 verset 21 dit, « Les prophètes ont parlé sous l'impulsion du Saint-Esprit. » Encore une fois, ce souffle divin, cet esprit, est décrit comme du vent dans Jean 3. C'est pourquoi nous disons que l'étude de la Bible, c'est Dieu qui nous parle. La prière, c'est nous qui parlons à Dieu, l'étude de la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Frères et sœurs, lorsque nous étudions nos Bibles, nous devrions les regarder comme ceci. Allez au chapitre 1 de Jérémie. Jérémie, chapitre 1. L'étude de la Bible, comme la prière, est l'une de ces choses dont nous entendons parler tout le temps. Bien sûr, nous le faisons. C'est passionnant. Parfois plus que d'autres. Lorsqu'il s'agit d'être en présence de Dieu, nous voulons nous assurer que nous le voyons correctement. Jérémie chapitre 1, et c'est ainsi que nous devrions penser à l'étude de la Bible quand nous le pouvons. Jérémie, chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée. Nous voyons cette phrase tout le temps dans la Bible. La parole de l'Éternel me fut adressée. Continuez à lire, disant, « Donc cela parle ici, avant que je t'aie formé dans le ventre, je t'ai connu, et avant que tu sois sorti du ventre de ta mère, je t'ai sanctifié, et je t'ai ordonné prophète pour les nations. » Alors je dis, ah. Seigneur Dieu, voici que je ne puis parler, car je suis un enfant. Le Seigneur me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras dans tous ceux où je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je viens de choisir ce verset, mais ce qui m'a sauté aux yeux était très coloré. Il y a un va-et-vient entre Dieu et Jérémie. Certaines des promesses qu'il y fait s'appliquent à nous et à nous-mêmes. L'échange était si puissant. C'est comme si Dieu était là avec lui. La parole de l'Éternel me dit, puis Jérémie répond et va et vient. Nous devrions nous engager dans la parole de Dieu de la même manière, frères, lorsque nous sommes excités. Nous allons et venons. Dieu, pourquoi l'as-tu dit de cette façon? C'est intéressant. Oh, cela ne m'aide pas à comprendre. Au lieu de simplement marmonner, je me suis dit que cela tirerait ton attention. Parce qu'on se dit, d'accord, étudie. Oh, je dois étudier. Oh. Non, c'est passionnant. C'est un va-et-vient. Ce ne sera pas toujours comme cela. Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais il faut s'efforcer d'y parvenir. Essayez d'y parvenir. Notre étude biblique devrait prendre vie. Dieu le savait. Dieu savait qu'il était si important d'être face à face par l'intermédiaire de sa parole, il savait que c'était si important qu'il a donné un visage à sa parole. Allons à Jean, chapitre 1, verset 14. Il y a un seul verset ici, Jean 1, 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du seul enfant du Père, plein de grâce et de vérité, Jésus-Christ, et bien sûr, Jésus-Christ avait un visage. La parole de Dieu a reçu un visage. Les gens se demandent, qu'est-ce que c'est? Comment ces mots peuvent-ils prendre vie? À quoi cela ressemble-t-il vraiment? Comment puis-je faire toutes ces choses que Dieu me dit de faire et qu'il attend de moi? Je connais Dieu. Je le connais. Je vais leur donner un exemple. Je vais leur donner un exemple littéral pour qu'ils puissent regarder et voir. Vous vous souvenez de ce que Christ a dit à Philippe? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu m'as vu, alors tu as vu qui? Tu as vu le Père. Ne manquez pas le lien. La parole, qui est ce livre, est devenue Christ, et si vous avez vu Christ, vous avez vu le Père. Frères et sœurs, lorsque nous étudions ce livre, nous regardons le visage de Dieu. Nous sommes face à face avec notre Créateur. En quoi cela change-t-il votre étude de la Bible? Ce n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours facile d'être face à face avec Dieu, même à travers sa parole. Allez au deuxième chapitre de Timothée. Deuxième Timothée, chapitre 2. Je peux essayer de toutes mes forces de faire en sorte que l'étude de la Bible ait toujours l'air si amusante et qu'elle soit un vrai plaisir. Parfois, c'est plus facile que d'autres, mais souvent, mes frères, c'est difficile. C'est difficile. Cela peut être un défi. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te montrer digne de Dieu, un ouvrier. Je veux que vous vous concentriez sur ce mot, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui divise droitement la parole de vérité. La communication de Dieu avec nous est parfaite. Sa parole a été purifiée cette fois. Sa parole est parfaite, elle nous parvient donc parfaite. Notre compréhension n'est pas toujours parfaite. Il peut être difficile de comprendre tout ce que Dieu dit. Nous ne comprenons pas toujours immédiatement ce que Dieu dit, et cela ne devrait pas nous surprendre. Il a dit qu'il fallait y travailler. Nous devons y travailler. Parfois, Nous devons attendre pour comprendre parce que nous ne sommes pas encore à un stade de notre vie où cela a un sens pour nous. Nous devons travailler pour être en présence de Dieu. Tu te souviens de David? Je chercherai ta face. Chercher implique qu'elle n'est pas toujours juste là. Nous devons creuser. Nous devons chercher. Nous devons parfois poser le livre et y revenir. Frères et sœurs, l'étude de la Bible ne doit pas nécessairement être ardue. C'est un mélange. Elle ne doit pas nécessairement être ardue. Il n'est pas nécessaire que ce soit toujours si difficile. Allez au psaume. Parce que tout comme nous devons y travailler, nous avons des versets comme le psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le siège des méprisants. Nous y voilà, mais ses délices sont dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Nous lisons l'histoire d'une personne qui se réjouit de participer à une étude biblique. C'est amusant, c'est gratifiant, c'est encourageant. Il y a tous les autres mots positifs que je pourrais utiliser, et c'est jour et nuit. Quand c'est jour et nuit, c'est quelque chose que l'on veut continuer à faire. Lorsque nous reconnaissons que lorsque nous entrons en contact avec la parole de Dieu, nous entrons dans la présence de Dieu, le jour et la nuit prennent tout leur sens. Rappelez-vous, Dieu veut être avec son peuple. Je suis allé jusqu'à dire qu'il veut désespérément être avec son peuple. Nous devrions désespérément vouloir être avec lui jour et nuit. Nous en avons l'occasion par l'étude de la Bible, en entrant en contact avec la parole de Dieu. Nous avons examiné la prière, nous avons examiné l'étude de la Bible. C'est une autre façon d'entrer en contact et d'être face à face avec Dieu. Ce n'est pas un moyen auquel on pense immédiatement. Actes des Apôtres, chapitre 2 Actes, chapitre 2. Nous le reprendrons au verset 42. Bien sûr, le contexte et la Pentecôte et les Actes sont le livre qui expose la Pentecôte, nous voulons donc le voir dans ce contexte. Actes, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de tous, et les apôtres faisaient beaucoup de prodiges et de miracles. Tous ceux qui avaient cru s'assemblaient avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs propriétés, et les distribuaient à tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient tous les jours d'un commun accord dans le temple, rompaient le pain de maison en maison, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nous venons de lire une description de l'Église de Dieu. Nous tous. Frères et sœurs, c'est nous. Nous faisons toutes ces choses. Tous ceux qui, dans le monde, cherchent l'Église de Dieu, se reportent à ces versets. Trouvez le groupe qui fait ces choses. Mes frères, c'est nous. 2000 ans plus tard, nous faisons toujours les mêmes choses que je viens de lire. Cela n'a pas changé. Nous avons continué à le faire. Dans l'Église de Dieu, nous sommes ensemble dans la doctrine, évidemment ensemble dans la communion, partageant des repas. Nous venons de partager un repas. Nous sommes ensemble dans les prières, nous vendons tout. Il parle de la fréquentation du temple. Nous nous réunissons dans des salles. Il est question de se réunir dans les maisons. Nous continuons à faire tout cela. Nous le faisons tous ensemble. Nous nous regardons tous. Nous sommes tous face à face. Nous faisons tout cela. Quel est le rapport avec le fait d'être face à face avec Dieu? Parce que c'est le sujet. Qu'est-ce que tout cela? Oui, nous sommes face à face. Oui, nous avons partagé un repas ensemble. Je te regardais et tu me regardais et tout cela, et nous nous rencontrons dans les maisons et tout cela. Oui, nous sommes ensemble et nous nous regardons les uns les autres, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le fait d'être face à face avec Dieu? Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, c'est-à-dire en celui du Christ, je suis au milieu d'eux. Est-ce vrai ou non? Toutes ces choses que j'ai énumérées dans les Actes, est-ce qu'elles n'ont pas été faites au nom de Jésus-Christ et par Jésus-Christ? Oui. Alors devinez quoi? Il est là. Lorsque nous partageons un repas, lorsque nous faisons toutes les choses dont nous avons parlé, lorsque nous nous réunissons dans le temple, lorsque nous nous réunissons dans les maisons. Il est là. Quand est-il du Père? Jean 14. Jean 14. Vous connaissez la réponse, mais nous allons la lire dans les Écritures. Où est le Père pendant tout cela? Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Le Père et Christ sont ensemble. Lorsque nous nous réunissons au nom du Christ, Dieu est là. Dieu est là avec nous tout comme il était dans l'Église avec l'Église dans le désert, les enfants d'Israël, tout comme Dieu était présent, rappelez-vous, présent dans l'Église, avec l'Église dans le désert et la colonne de nuée, la colonne de fumée. Dieu est présent dans son Église moderne aujourd'hui. Ce n'est pas différent. Il se manifeste de différentes manières. Mais nous venons de lire que Dieu et Christ font leur demeure en nous. Ils sont avec nous. Nous n'avons pas besoin de regarder un nuage, du feu, de la fumée. Ils font leur demeure. Ils habitent avec nous. Jean 1, Jean 1. 1er Jean 1. Excusez-moi, 1er Jean. 1er Jean, verset 3. 1er Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et en vérité, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Je vous écris ces choses afin que votre joie soit complète. Voici donc le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Rappelez-vous que Dieu ne veut pas être en présence du péché. Le sang du Christ nous purifie de ce péché. Devinez quoi? Nous pouvons maintenant être avec lui. Nous pouvons maintenant être en communion avec lui. Nous pouvons maintenant être en sa présence. Frères et sœurs, lorsque nous nous réunissons, Dieu est là. Dieu est avec nous aujourd'hui à la Pentecôte. Dieu est ici, et parce qu'il est omniprésent, il est avec les frères partout dans le monde aujourd'hui. Dieu est avec nous. À quoi ressemble la présence de Dieu? À quoi ressemble-t-elle? Nous parlons de faire sa demeure en nous. À quoi ressemble-t-elle? Est-ce du feu? De la fumée? Un visage brillant? Vous vous en souvenez? À quoi cela ressemble? Eh bien, ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre. Cela peut vous surprendre. Dieu nous parle à travers des gens, à travers des gens. Il peut s'agir d'un ministre. Il peut s'agir d'un confrère. Notre visage est son visage. Lorsque vous êtes assis en face d'une personne et qu'elle vous raconte son expérience, les choses qu'elle a vécues et qu'elle glorifie Dieu, vous voyez le visage de Dieu dans cette personne et à travers cette personne. Oh là là, vraiment. Lorsque vous êtes assis en face d'un pasteur et qu'il vous conseille, et qu'il vous dit la pensée de Dieu, vous voyez le visage de Dieu à travers cet homme. Comment Dieu peut-il être autrement? Nous n'entendons pas une voix audible de Dieu. Nous l'entendons de la part du ministre. Nous l'entendons de la personne assise en face de nous, qui nous raconte son passé ou ce qu'elle a vécu pour glorifier Dieu. Lorsque nous nous servons les uns les autres, la personne servie voit Dieu sur son visage. Rappelez-vous que Christ a dit, « Si vous donnez à boire aux plus petits d'entre eux, c'est comme si vous me donniez de l'eau. » Vous vous souvenez? Lorsque nous servons, la personne voit le visage de Dieu en nous, à travers nous. C'est en partie pour cela, mes frères, que Dieu met l'accent sur la communion fraternelle et la vie en commun. De quoi ai-je parlé pendant tout ce temps? De l'importance et de la signification d'être en présence de Dieu. La communion fraternelle est un moyen puissant d'être en présence de Dieu. Dieu est ici avec nous. Être face à face avec Dieu dans sa présence, les uns avec les autres dans la communion fraternelle, est une exigence majeure, une exigence majeure. Regardez Jean 17. Jean 17. Il s'agit d'une exigence majeure, majeure. Jean 17, verset 21. Quelle est l'exigence? Jean 17, verset 21. Afin qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé et que la gloire que tu m'as donnée, je la leur donne, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Que signifie donc être un avec Dieu et avec Christ? Allons au premier chapitre des Corinthiens. Premier chapitre des Corinthiens. Nous y lisons l'exigence de la communion fraternelle et du face-à-face avec Dieu par l'intermédiaire de personnes. Premier chapitre des Corinthiens, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, à être parfaitement unis dans une même pensée et dans un même jugement. Telle est l'exigence, frères, nous devons être unis. Il ne peut y avoir de division entre nous. La division est une chose dangereuse, dangereuse, dangereuse. Si un ministre voit une division dans une congrégation, ses antennes s'élèvent et il doit y faire face. Nous ne pouvons jamais laisser la division s'installer entre nous. Nous ne serons pas toujours d'accord sur tout, mais nous ne pouvons pas permettre que cela devienne une division. Et nous ne pouvons vraiment pas nous permettre d'en arriver là quand Dieu est là avec nous. Lorsque Dieu est là avec nous et qu'il y a des divisions, que faisons-nous? Que montrons-nous au Dieu Tout-Puissant? Dieu ne peut pas être en présence de cela. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Lisons un verset récapitulatif à ce sujet, une série de versets à ce sujet, Philippiens chapitre 2, verset 1. Philippiens 2, 1. S'il y a quelque consolation en Christ, quelque réconfort de l'amour, quelque communion de l'esprit, quelques entrailles et quelques miséricordes, si des entrailles et des miséricordes vous comblent de joie, c'est que vous soyez animés d'un même esprit, d'un même amour, d'un même élan, d'une même pensée. Que rien ne se fasse par querelle ou par vaine gloire, mais que chacun s'estime meilleur que soi-même, dans la modestie de ses sentiments. Frères et sœurs, nous devons souvent nous humilier pour pouvoir maintenir cette unité. Parfois, nous devons nous humilier. Vous savez quoi? Je pense que j'ai raison, mais je vais m'humilier tout de suite. Pourquoi? Parce que je veux être en accord avec mon frère. Avec mon frère ou ma sœur. Ne regardez pas chacun à ses propres affaires, mais regardez aussi les affaires d'autrui. Ayez en vous l'esprit qui était dans Christ Jésus. Le même Christ qui est là avec nous auprès du Père, lorsque nous nous réunissons en communion. Frères et sœurs, nous devrions tous ressembler à Dieu les uns pour les autres. Lorsque nous nous voyons les uns les autres, nous devrions voir Dieu. Et devinez quoi? Nous le verrons. Pourquoi sommes-nous ici? Pour devenir Dieu. Parfois, je médite, j'y pense, à quoi ressemblerai-je quand je deviendrai Dieu? À quoi ressemblerez-vous tous quand vous deviendrez Dieu? Serez-vous les mêmes? Pourrais-je vous regarder en disant, oh, oui? Ou bien serez-vous complètement différent? Je pense à l'homme qui a vu Christ après sa résurrection et qui ne l'a pas reconnu. Aurons-nous l'air différent? Nos visages seront-ils les mêmes? Eh bien, nous savons tous, je suppose, que nous serons en mesure de déterminer qui est qui. Mais, mes frères, c'est une chose passionnante. C'est une chose passionnante. Alors quand je dis que nous nous regardons les uns les autres et que nous devrions voir le visage de Dieu, c'est vrai. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Face à face, comme je le conclus ici, face à face signifie être en présence de Dieu. Voilà ce que cela signifie. Mes frères, je l'admets, je veux aussi savoir exactement à quoi ressemble le visage de Dieu. C'est bien d'être en sa présence, c'est merveilleux, mais à quoi ressemble réellement son visage? Allons au 1er Jean, chapitre 3. Voici le dernier verset. Je ne pouvais pas terminer un sermon comme celui-ci sans ce dernier verset. 1er Jean, chapitre 3. 1er Jean 3, commençant ici, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. J'en ai entendu parler tout à l'heure. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant les fils de Dieu, et ce que nous serons n'apparaît pas encore, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Un jour, nous pourrons réellement voir le visage de Dieu, et pas seulement être en sa présence. À quoi cela ressemblera-t-il? Je n'ai pas assez de temps dans ce message pour spéculer. Mais, frères, laissez ce verset et tous ces versets vous inspirer. La Pentecôte est un jour merveilleux. Le jour où nous recevons l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Une église qui ressemble à celle d'il y a 2000 ans. Permettez que cela vous inspire de l'espoir. La Pentecôte est un jour saint extraordinaire, pour de très nombreuses raisons, mais la principale est que nous avons la possibilité d'être en présence de Dieu. La possibilité de voir Dieu face à face.